Monseigneur François Garnier, vous êtes archevêque de Cambrai, et qu'est-ce qu'un archevêque pense quand il se réveille le matin?
C'est pas forcément très pieux. J'ai eu un jésuite en retraite il y a pas longtemps, le père Flippot, qui nous a dit que la prière était la clé du matin et le verrou du soir. Quelquefois, j'oublie la clé. Mais je la retrouve quand même assez vite parce que la première chose qu'on fait à l'archevêché quand il n'y a pas de célébration à l'extérieur prévue dans le diocèse, c'est quand même de commencer le matin par la prière du matin et la célébration de la messe avec quelques personnes qui peuvent se joindre à nous.
Quelles sont un peu les perspectives de votre diocèse? Vous avez des projets? Vous pouvez nous en parler?
Oui, il y a toujours des projets. Celui qui nous retient le plus, c'est de mettre le plus grand nombre de diocésains possible en contact avec l'écriture. Et cette année, nous avons fait un petit livret sur les Actes des Apôtres, où on regarde à la loupe une dizaine de textes, et avec une technique qui est faite pour faire parler les muets et faire taire les bavards. Ça veut dire que, on dit la première fois, quand vous lisez le texte, vous avez un crayon et vous soulignez la parole qui vous parle à vous. Et on fait silence. Et au bout d'un moment de silence, chacun ne lit que ce qu'il a souligné. Et ensuite, alors, on refait silence en disant, attention, au bout du silence, vous allez dire pourquoi cette parole vous parle. Et il y a un partage qui est tout à fait extraordinaire. Et on refait silence. Et après seulement, vous allez transformer tout ce que vous avez entendu en une prière. Et puis on fait silence. Et après seulement, j'allais dire on bavarde, ou on approfondit le texte. Et mon bonheur, c'est que ce petit livret, actuellement, est travaillé par plus de 500 équipes dans le diocèse, et sont des équipes de 5, 10 ou 15 personnes. C'est tout à fait étonnant parce que les textes ont été très très bien choisis. Et notre hypothèse, c'est que l'Église d'aujourd'hui connaît très exactement les épreuves qu'ont connues les premières communautés chrétiennes. Alors on se trouve avec les épreuves internes, c'est toutes les divisions, les discussions, tout ce qui stérilise la mission, et puis il y a toutes les épreuves externes. Les gamins, ils nous disent on est moqués parce qu'on est chrétiens, les grands, ils sentent bien toutes les persécutions qui viennent du dehors. En fait, les persécutions qui viennent du dehors, ça n'est rien du tout, c'est pas grave, et c'est même tant mieux qu'on ne peut pas être chrétien dans le monde d'aujourd'hui sans affronter l'individualisme, le consumérisme, comme disent les papes depuis des décennies. Mais c'est les divisions internes, moi, qui me frappent beaucoup. Il y a énormément de déperdition d'énergie à cause des oppositions idiotes entre baptisés.
Monseigneur François Garnier, vous nous dites que vous remettez finalement la parole de Dieu au centre de votre diocèse. Et j'ai entendu parler aussi d'une autre initiative qui s'appelle Recherche Avenir.
Recherche Avenir, ça fait longtemps que des jeunes prêtres me disaient on devrait faire un audit dans ce diocèse. Alors un audit, moi, alors c'est un mot qui me fait un petit peu peur, parce que quand ça se passe dans des entreprises, il y a des gens extérieurs qui viennent, ils regardent tout ce qui se passe et ça se termine souvent avec des mises à la porte, des changements de rôle, bon. Mais c'est pas ça qu'ils voulaient. Ils disaient, il faudrait un regard extérieur de spécialistes pour nous dire quelles sont nos chances, quelles sont nos faiblesses. Et j'ai fait appel, par l'intermédiaire d'un ami chrétien que je connaissais bien et dont c'était le métier, à un organisme. Et en fait, il est venu, lui, comme il est jeune retraité, il est venu avec deux professionnelles, deux femmes. L'une qui est d'origine chrétienne, catholique, baptisée, mais elle a été touchée par l'eau du baptême, quoi. C'est à peu près, voilà. Et l'autre qui est d'origine bouddhiste, une asiatique. J'ai demandé à l'une de mes collaboratrices de faire une dizaine de groupes de 10 personnes, et c'est elle qui a fait ces groupes-là. Moi, je n'y ai été pour rien. Il s'agissait simplement de faire en sorte que les personnes dans ces équipes soient des personnes à la fois très franches, imaginatives et en même temps discrètes. Il y avait ce profil-là qui était choisi. Et nos spécialistes sont venus rencontrer les 10 équipes en passant à chaque fois une ou deux journées avec chacune des équipes pour faire la liste des chances et des faiblesses. Ils sont actuellement dans une deuxième phase dont le but est d'ouvrir des routes. Où est-ce qu'on va mettre nos forces avec nos chances et nos faiblesses? Où est-ce qu'on va mettre nos forces demain? Alors c'est en plein travail pour le moment, c'est en cours de recherche, mais pour la deuxième partie, ils nous ont dit, attention, le conseil épiscopal, vous faites une équipe et vous allez jouer le jeu avec nous. Eh bien, la semaine dernière, on a passé 2 jours avec ces 3 spécialistes et on s'est rendu compte à quel point, parce qu'on travaille trop vite, parce qu'on croit se connaître et qu'on ne se connaît pas tout à fait assez, à quel point la parole de l'un ou l'autre plus timide, à quel point tout ne se dit pas. J'ai été très très heureux qu'on prenne conscience de cela et je pense que ça va modifier notre façon de travailler dans le Conseil épiscopal. On arrivera sans doute à des pistes plus concrètes parce que j'ai fait, je ne sais pas, 120, 130 enterrements de prêtres depuis que je suis archevêque de Cambrai et je n'ai fait que 9 ordinations. Et donc on sent bien que notre manière d'être prêtre dans les années qui viennent va rejoindre la manière que saint Paul a de faire. Il faudra aller de petites églises locales qui se constituent autour de responsables qui sont encore à trouver et à former, mais on passera. Et on ne passera que pour faire ce qui relève de notre ministère de prêtre, l'Eucharistie, le pardon, l'ouverture à la mission, la rencontre des plus éprouvés, que ce qui relève de notre ministère de prêtre. Et ça, c'est un changement considérable, parce que nous avons été si nombreux dans nos diocèses qu'on a pris l'habitude de gérer et de commander à peu près tout, et que toute cette gestion ordinaire, toute cette responsabilité ordinaire de Jésus, de l'Évangile et de l'Église, elle sera portée par 5, 6, 10, 15 chrétiens dans l'ancien clocher ou dans l'ancien groupe de clochers. Et nous, nous n'aurons à passer que comme les garants, comme les animateurs, comme les arbitres, comme les entraîneurs. C'est un petit peu difficile à faire passer. Mais il faut qu'on arrive à consentir à la réalité et à modifier notre manière de faire à partir de ce consentement.
Ce consentement, il se fait aussi, vous le dites, à travers l'évaluation des forces et on ne peut pas s'empêcher de penser à la force que nous allons recevoir à la Pentecôte. Et je crois qu'à la Pentecôte, vous allez aussi fêter cet événement.
Ah oui, tout à fait. Notre Église ne fonctionne pas comme n'importe quelle structure humaine. C'est vrai que l'évêque, avec toutes ses faiblesses, il compte sur la force d'un autre, ça c'est bien clair. Et à la Pentecôte, on a décidé d'abord de fêter les actes des apôtres. Il va y avoir toute une série de chars, on va faire des chars. Comme on va se trouver autour d'un terrain de foot avec des gradins tout autour, on sera 12 000, 15 000, hein, ça je suis tranquille. Et avec 1000 chanteurs, enfin bon, ça c'est clair, c'est déjà parti, c'est des laïcs qui mènent ça d'une manière absolument merveilleuse. Mais il va y avoir tout l'après-midi des chars qui vont tourner, un char qui va montrer acte 2, 42, l'assiduité à l'enseignement des apôtres, l'assiduité aux prières et à l'Eucharistie, et surtout l'assiduité à la charité fraternelle. Il y en aura un autre qui va montrer la persécution, il y en a un autre qui va montrer comment on a dépassé les divisions. J'avais un prédécesseur, Monseigneur de la Porte, qui disait, quand il parlait de son diocèse, c'était facile, 1 million d'hommes et de femmes à aimer.
1 million d'hommes et de femmes à aimer, parmi lesquels des divorcés et remariés, pour lesquels vous avez une grande attention.
J'ai une grande attention pour eux, d'abord parce que personnellement, dans ma famille, j'ai vécu cette douleur de voir des frères, un de mes frères, mes sœurs, traverser des moments très douloureux dans leur vie. Quand je suis arrivé dans le diocèse de Cambrai, il y avait des prêtres qui, quand des divorcés et remariés venaient leur demander quelque chose à l'église, ils disaient « Écoutez, il n'y a rien de possible ». Et je me disais, mon Dieu, peut-être qu'on est en train de casser le dernier fil. C'est des gens qui ont traversé l'épreuve du divorce, qui recomposent quelque chose, qui voudraient le confier au Christ, et on leur dit, il n'y a rien de possible. Et puis, il y avait des prêtres dont on me disait qu'ils faisaient une célébration qui ressemblait au mariage, à l'église, en vêtements liturgiques, avec bénédiction. Je me suis dit, ça, c'est pas possible. Quel chemin trouver ? Et c'est là qu'après avoir réfléchi beaucoup avec tous les conseils, le conseil de pastoral, le conseil presbytéral, on s'est dit, c'est pas possible de renvoyer, mais c'est pas possible de faire comme un mariage. Et donc, s'il y a des gens qui viennent nous demander quelque chose à l'église, on leur dit tout de suite, écoutez, s'il y a quelque chose, s'il y a un moment de prière, ça sera pas dans l'église. Ne nous en voulez pas s'il n'y a pas de vêtements liturgiques. Ne nous en voulez pas s'il n'y a pas de rituel. Ne nous en voulez pas s'il n'y a pas de bénédiction d'alliance, s'il n'y a pas de cloche, s'il n'y a pas de faire-part. Mais avant que vous n'alliez à la mairie pour votre remariage, si vous voulez un temps de prière, si vous acceptez tout ça, on peut monter dans une salle de caté, ou bien chez vous, ou bien éventuellement même dans le lieu où se fera la fête après. Un moment de prière qui peut être très beau, avec vraiment ceux qui croient dans le Christ et qui ont envie de vous souhaiter de réussir ce sur quoi jusqu'alors vous avez échoué. Et dans la prière, on aura un moment de pardon. Parce que quand même, quand il y a eu séparation, quand il y a eu divorce, on n'y est pas tout à fait pour rien, même si peut-être on n'est pas le premier responsable. Et on choisira dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, quelques appels pour vivre le plus saintement possible une nouvelle étape de votre vie. Et puis on fera un petit partage autour de la parole de Dieu. On fait une prière universelle. C'est une rencontre discrète, familiale, amicale, c'est peut-être 5, 10, 15 ou 20 personnes qui se retrouvent avant le mariage, le remariage civil, pour ne pas se confondre avec l'autre situation. Et puis voilà, ceux qui ont souffert de la désalliance, ceux qui ont souffert du divorce et qui veulent confier au Christ une nouvelle étape de leur vie, moi, j'arrive pas à me faire à l'idée qu'on ne trouve pas cette réponse minimale à leur proposer. Je crois vraiment, au vu du malheureusement très grand nombre de mariages qui aboutissent à des divorces, il faut que notre Église continue de voir quelles sont les meilleures réponses pastorales, non ambiguës, qui peuvent encore être trouvées, pour ne pas décourager, pour ne pas casser des fils avec des gens qui, de toute façon, ne veulent rien faire d'important sans le confier au Christ et à l'Église.